Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité avec à suivre dans un instant vos réactions et vos commentaires sur les discussions intermaliennes d'Alger. La semaine dernière, les groupes armés du Nord et les représentants de l'État malien sont tombés d'accord sur une feuille de route en vue d'une solution négociée à la crise. Un calendrier de négociation a été fixé. Il s'agit d'un premier succès pour Alger. Il sera suivi d'une prochaine rencontre au cours du mois prochain, au mois d'août donc. Objectif, parvenir à la signature d'un accord pour une paix durable au Mali. Je rappelle que ces discussions d'Alger sont les premières à rassembler l'ensemble des parties prenant au conflit depuis celle qui avait abouti à un accord intérimaire en juin 2013 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Alors, cette nouvelle étape franchie à Alger est-elle déterminante? Que pensez-vous de l'implication de l'Algérie dans la résolution de la crise? Vous nous rejoignez pour en débattre. Aboubacar est à Kaye, au Mali. Bonjour Aboubacar.
Bonjour Monsieur Kodjo.
Aboubacar, vous restez pessimiste malgré l'accord intervenu à Alger. Pourquoi?
Ah oui, effectivement, moi j'ai un peu de doute. Je sais que trop de doute nuit, mais un peu de doute aussi est salutaire. Je ne veux pas être aussi un oiseau de mauvaise augure, mais les accords d'Alger ne me rassurent en rien pour qui connaît le MLLA, pour qui connaît également la place de la France dans cette crise qui n'a pas été associée alors à cette phase de la chose. Dans cette affaire, la France n'est pas seulement témoin ni arbitre. La France est un acteur, a été un acteur. Donc la France doit était là au pur moment. Donc elle mérite d'être impliquée aux négociations de sortie de crise.
Mais je rappelle Aboubacar que c'est le 19 janvier dernier, hein, lors de sa visite d'État en Algérie, à Alger, que le président malien a demandé à son homologue algérien que l'Algérie dirige le processus de sortie de crise. Donc c'est un souhait du président, du chef de l'État malien.
Ça, c'est le souhait du président de la République. Cela ne peut pas empêcher à un citoyen malien lambda aussi de donner son point de vue.
Vous êtes donc là pour ça.
Je pense...
Vous êtes à l'antenne pour ça. On vous écoute.
Donc, moi, je pense, Monsieur Kodjo, que le MLLA n'est pas venu, pour le moment, on peut se permettre de le dire, à Alger pour une paix avec le reste du pays.
Oui.
Loin de là. Et l'avenir nous édifiera. Alors, si le MLLA a renoncé à l'autonomie sur Paty en Algérie, attendons voir leur comportement sur le terrain avant la prochaine rencontre ou bien pendant la prochaine rencontre. Donc, pour finir, vous allez me permettre de dire encore que je ne suis pas sûr que l'Algérie seule alors pourra faire ramener une paix définitive, durable au Mali, peut-être avec l'appui de la France. Je demande en tout cas à la France de M. Hollande que l'opération Barkhane, qui est à ses balbutiements, n'aura pas de sens si la situation qui prévoit à Kidal ne trouve pas son épilogue rapidement.
Aboubacar, restez en ligne s'il vous plaît, je vous redonnerai la parole. Je voudrais juste accueillir Amadou qui lui est à Bamako. Bonjour Amadou.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Aboubacar qui se dit très pessimiste sur ces négociations et sur la feuille de route notamment, et qui demande, qui souhaite en tout cas l'intervention de la France, dans l'implication de la France dans ces discussions intermaliennes. Qu'en pensez-vous?
D'abord, je tenais à remercier les auditeurs de RFI et remercier et saluer hautement la sagesse de l'ensemble des acteurs au plan national et international pour les succès enregistrés à l'occasion de ces pourparlers. Contrairement à mon compatriote Abdoulaye, moi je suis très confiant pour ces négociations qui se tenaient à Alger. Vous savez, ces pourparlers qui ont débuté la semaine dernière, il y a deux semaines de cela, en Algérie, entre Maliens et. Confirme la réaffirmation de toutes les parties présente dans la capitale algérienne.
Ouais.
Et leur volonté de faire la paix.
Amadou, si vous permettez, écartez un petit peu le combiné de votre bouche. Je pense qu'on vous entendra mieux, parce que là, ça sature un peu.
Oui,
allez-y, on vous écoute.
Voilà, je disais, les pourparlers qui réaffirment la volonté des deux parties, que ce soit le gouvernement du Mali et les groupes armés, de faire la paix devant la communauté internationale. Le gouvernement de la République du Mali et les groupes armés ont accepté tous l'intégrité du territoire.
Donc en gros, Amadou, pour résumer, parce que vraiment la ligne est trop mauvaise, malheureusement, on va essayer de voir si on peut vous revoir un peu plus tard dans le déroulement de l'émission. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt satisfait de la feuille de route, vous êtes plutôt optimiste hein, sur la résolution du conflit. Aboubacar, que pensez-vous de ce point de vue? Est-ce qu'il y a nécessité, ou du moins des éléments qui permettent d'être un tout petit peu optimiste, comme vient de nous le dire en substance Amadou?
Je m'excuse, M. Kodio, je n'ai pas bien entendu la dernière partie. Reprenez rapidement.
Oui, je disais qu'à la lumière de ce que j'ai pu comprendre hein, de l'intervention d'Amadou, effectivement, il semblait satisfait de la feuille de route. Il semblait plutôt optimiste quant à l'issue de la crise dans votre pays aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éléments objectifs? Parce que je rappelle quand même que les parties au conflit se sont entendues sur cette feuille de route jugée consensuelle. Il y est inscrit notamment le principe de l'intégrité territoriale du Mali, un point sur lequel Bamako ne voulait en aucun cas transiger. Il y a aussi un autre point, le principe de laïcité de l'État malien. Ce sont quand même quelques éléments que les mouvements politico-militaires du Nord ont accepté sur ce document. Est-ce que là, il n'y a pas des raisons objectives de penser qu'ils sont de bonne foi et que finalement ils vont tenir leurs engagements?
Bien, ce que je voudrais ajouter, Juan, disons, M. Gomez, par rapport à cette
Monsieur
question
Kodio.
De la chose. M. Kodio, je suis là, je m'excuse.
C'est pas grave.
Alors, ce que je peux dire, moi, je pense tout simplement que la partie intégrité ne sera pas touchée ou bien il n'aura pas d'autonomie,
oui.
Mais vous allez voir pendant la deuxième phase des négociations, le MLLA va demander quelque chose à l'État, une concession à l'État qui va ressembler à une autonomie de gestion. Mmh. Vous voyez?
D'accord.
Donc, moi, je pense que l'intégrité, le Mali est indivisible, c'est possible. Mmh. Mais on peut trouver sur le papier un accord qui va faire grincer les dents au Mali.
D'accord.
Parce que ça va ressembler. Le MLLA n'est pas venu pour vraiment faire la paix. Vous allez vous rendre compte, vous allez voir lors de la deuxième phase des négociations, parce que c'est la forme seulement qui a été discutée lors de la du premier round. Donc c'est le fond qui sera discuté
effectivement.
En août.
Aboubacar, effectivement, c'est ce qui est prévu. Ils vont travailler sur le fond lors de cette deuxième phase qui est prévue en août. Je crois que c'est autour du 17, entre le 11 et le 17 août. En tout cas, merci beaucoup de votre analyse de la situation, en tout cas de ces accords qui ont été signés dans la discussion intermalienne. Merci à vous de nous écouter à Kay. On va repasser par le standard. Boubacar est en ligne à Niamey. Bonjour Boubacar.
Oui, bonjour, je suis là.
Alors, que pensez-vous de cet accord qui a été signé donc à l'issue des discussions intermaliennes d'Alger? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter bonne fête à toute la Oumma islamique, parce que nous, à Niamey, on vient de la mosquée Kontia.
Mm-hmm.
Bonne fête de Ramadan à tout le monde.
Une bonne fête à vous.
Ok. Donc, pour moi, je pense que les accords d'Alger, vraiment, c'est un non-événement. C'est comme l'a dit mon nom Boubacar de Mali. Moi, pour moi, je dis que c'est un non-événement. Parce que les dés de ce jeu-là ont été faussés dès le départ.
C'est-à-dire?
Oui. C'est-à-dire, au moment où on libérait Gao, Tombouctou et autres, c'est en ce moment qu'on devait même libérer Kidal et toute la partie du Nord. Les armes, on devait vraiment finir avec le MNLA qui cause trop de problèmes. Parce que les revendications, c'est comme l'a dit Boubacar, vous allez voir au deuxième round, les revendications du MNLA seront encore plus énormes.
Mais Boubacar, s'il vous plaît, le MNLA n'est pas le seul groupe politico-militaire du Nord à avoir signé ces accords. Il y a le HCUA, il y a le MAA, il y a la coordination pour le peuple de l'Azawad et la coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance. Donc il y a beaucoup de, de groupes politico-militaires qui sont impliqués dans ces discussions intermaliennes. Il y a évidemment l'Algérie qui joue les bons offices dans tout le dispositif. Est-ce que malgré tout ça, vous ramenez tout au MNLA? Est-ce que vous pensez que le MNLA domine tous ces mouvements-là?
Non, mais évidemment, il n'y a même pas à dire.
Pourquoi il y a cette cristallisation, justement, sur le MNLA?
Parce que le MNLA ne veut pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. S'ils veulent la paix, ils n'ont qu'à venir chez nous au Niger. On va leur montrer. Nous, on a signé des accords avec des rebelles. Mais maintenant, tout est parti dans l'ordre. Au Niger, on parle de rébellion. Si les gens veulent la paix, il faut qu'ils soient sincères. Ne cherchez pas à partir vous surarmer, pour venir dire que vous voulez la paix. Non. Celui qui veut la paix ne va pas passer par les armes.
Non, mais pourquoi vous préjugez de la mauvaise foi a priori du MNLA, si tant est que le MNLA contrôle tous les autres mouvements?
Moi, je pense que ces gens-là, s'ils veulent vraiment venir à la paix, ils n'ont qu'à déposer les armes, ils n'ont qu'à accepter d'être cantonnés, négocier, et que la partie gouvernementale aussi ne refuse pas aux gens du Nord des éducations, nous sommes toutes un peu légitimes. Il faudrait qu'on revienne. On n'a même pas besoin de partir. Ça, c'est une proposition que nous, si on le fait, on n'a même pas besoin de partir en Algérie ou quelque part. On n'a qu'à venir au Niger. On va leur montrer comment que nous, on a fait la paix.
Donc, d'accord. Ok, Boubacar, vous invitez donc les acteurs de la crise malienne à se rendre au Niger pour discuter de tout ça et prendre exemple sur le Niger. Bah écoutez, le message, je l'espère, est passé. 33 9 693 693 70. Si vous nous écoutez, je vous rappelle juste que nous débattons aujourd'hui de l'accord signé par les groupes armés du Nord et les représentants de l'État malien sur une feuille de route en vue d'une solution négociée. Un calendrier, je vous le rappelle, a été fixé. Il sera suivi d'une prochaine rencontre au cours du mois prochain, du mois d'août. Fofana, vous êtes en ligne à Bamako. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, Vassili, bonjour, monsieur Delatin.
Que pensez-vous de la signature de cet accord sur les discussions, à l'issue des discussions intermaliennes d'Alger?
Bon, comme pour une première partie, c'est une heure de foi. Parce que parmi les trois derniers accords signés, l'accord de Tamarasek, la Pacte nationale jusqu'à l'accord d'Alger, on n'a jamais été au courant d'une commission de suivi ni être épaulé par la commission. La CDAO ou bien autre structure telle que la France est là pour nous épauler pour avoir une bonne issue. Bon, en ce qui concerne, comme tout à l'heure le disait, les gens qui sont là à parler de MNLA, le MNLA veut se poser en leader.
Oui.
Par rapport à ces...
En tout cas, c'est ce qui ressort de vos différents témoignages. Hein. C'est que vous avez le sentiment que le MNLA domine la partie et que le MNLA a une influence sur les autres mouvements.
Du tout, parce que c'est ce qu'ils créent dans leurs idées. Le MNLA aussi, ils veulent se poser en leader. Raison pour laquelle il y a des dissensions au sein des mouvements armés. Et c'est ce que j'ai dit. Tant qu'il n'y a pas de coalition entre eux, on ne peut pas négocier à proprement dit.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup de votre appel. Merci à vous de nous écouter à Bamako. On va accueillir Traoré, qui lui est à Koutiala, près de Sikasso. On est toujours au Mali. Bonjour Traoré.
Oui, bonjour Monsieur Zéphira.
Bienvenue, on vous écoute. Vous êtes inquiet et pessimiste sur ces négociations. Expliquez-nous.
C'est vrai. Monsieur Papa Bandjougou Traoré de Koutiala, près de Sikasso. Monsieur Zéphira, comme mes précédents ont dit, j'ose croire et avoir beaucoup d'espoir sur cet accord pour une paix durable dans mon pays. Mais je suis partagé surtout sur la sincérité du MNLA, puisque les gouvernements successifs du Mali n'ont jamais cessé de faire des facilités à ces groupes, mais hélas peine perdue. Puisque nous avons fait l'accord du Tamarasek de 91, il y a eu le pacte national de 92, il y a eu l'accord d'Alger de 2006. L'État du Mali a intégré plusieurs fois ses combattants, souvent déserteurs du MNLA, dans l'armée nationale. À libérer aussi des détenus qui sont impliqués dans des atrocités, des viols et des tueries. Tout cela, c'était pour la recherche de la paix tant voulue par la population du Mali. Chaque fois, le même MNLA qui se déclare disposé au dialogue et à la négociation comme moyen de règlement des différends, mais après ces petits groupes non représentatifs sur la population du Nord, prend des armes, soi-disant défendre un peuple imaginaire de l'Azawad, un peuple même qui n'est pas acquis à leur cause. Car ce peuple-là n'est ni consulté, ni concernés par l'idée d'indépendantisme du MLA.
Pour vous, c'est une poignée de personnes. Mais alors pourquoi ils ont cette influence, cette importance dans le débat, dans la crise malienne d'aujourd'hui?
Oui, comme mes prédécesseurs ont dit, c'est des gens qui veulent le leadership. Mais on sait qu'il y a un soutien de l'extérieur qui font qu'ils croient à leur potentiel. On le sait, comme monsieur de Caille avait dit précédemment pour la France, par exemple, qui est là, qui les soutient, tout le monde le voit, mais compte tenu de...
La France, pour vous, la France soutient le MNLA?
Oui, clair et net. Et tout le peuple est convaincu de cela aussi, j'en suis sûr.
Quels sont les arguments qui vous permettent d'affirmer ça?
Oui, parce qu'on a vu récemment avec la récupération du Nord, comment une guerre, on doit bouter les terroristes du nord du Mali, arrivés à Anéfis, il y a blocage, l'armée malienne n'arrive plus à rentrer à Kidal, la France elle s'en va, bon, on connaît l'histoire, le reste de l'histoire qui se passe là. On a fait la guerre ensemble avec la France à Gao, à Tombouctou, mais à Kidal, non.
D'accord. Restez en ligne, Traoré, je voudrais qu'on donne la parole à Mahaman, qui lui est à Gao, je crois. Mahaman, bonjour.
Bonjour, Zéphirin.
Oui, vous venez d'entendre Traoré. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là qu'il défend?
Évidemment, je pense qu'il a tout à fait raison par rapport au premier point, à savoir, moi je dirais, un pays qui n'apprend pas de ses erreurs passées ne peut que les reconnaître. À savoir, les accords de paix, la feuille de route qui vient de signer avec les différents groupes rebelles, moi je ne citerai pas que le MNLA est celui qui est plus vieux, parce que c'est celui qui est à la base des hostilités. Mais en fait, ces accords représentent réellement, comme il l'a dit, les accords précédents, en 1991, en 1992,
en 2006,
c'est-à-dire en 2006, je veux dire. Ces accords, en fait, ne font que satisfaire les représentants du MNLA, les différents groupes les différents groupes rebelles. Ils ne répondent pas réellement aux aspirations du peuple et des populations du nord du Mali. Mais déjà, les Maliens, en général, ils ne veulent pas parler d'indépendance ou d'autonomie, alors que c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que le Mali est un pays où, franchement, la corruption est institutionnalisée et instrumentalisée et soutenue depuis en haut. On ne peut pas comprendre qu'un peuple vit dans ces conditions-là et que ses dirigeants se permettent de s'offrir un certain luxe des 4x4 pour des ministres, des grands buildings construits. Il faut une indépendance pour que ce peuple quitte, cette souffrance-là.
Très bien.
Il faut. Et les Maliens, ils ont peur de parler de cela.
Oui, Mahaman, effectivement, on entend bien ces critiques-là, qui sont des critiques récurrentes, qui reviennent systématiquement, c'est-à-dire que la classe politique est souvent accusée de beaucoup de maux. Effectivement, elle est en difficulté, en très grande difficulté. Il y a un déficit, effectivement, de débats politiques, vraisemblablement, vous le pointez tous. Je voudrais redonner la parole à Traoré. Traoré, que pensez-vous du regard, de la perception que Mahaman a des choses dans votre pays?
Oui. Ce qu'il a dit, c'est ça. Mais, il faut savoir aussi que les différents accords ne sont pas vains seulement, parce que même le mouvement qui est là, cours même des négociations, il y a eu certains dysfonctionnements par rapport à la position du MLA pour les autres.
On ne va pas revenir sur les dysfonctionnements. On aura de toute façon, l'occasion de revenir sur ce débat intermalien, ces discussions intermaliennes, puisque je vous le disais en ouverture de cette émission, d'autres rendez-vous sont déjà notés. Combien de temps vont durer les discussions intermaliennes pour pouvoir arriver à une paix durable? Pour l'heure, personne ne le sait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que nous avons rendez-vous demain pour un débat consacré cette fois aux relations entre les États-Unis et l'Afrique. Merci à tous. Je rappelle que ce lundi est à une semaine du premier sommet États-Unis-Afrique des 4 et 5 et 6 août prochains. À Washington, le président américain reçoit 500 jeunes entrepreneurs du continent. Il s'agit des lauréats YALI, l'initiative des jeunes leaders africains. C'est l'un des principaux programmes de Barack Obama pour l'Afrique. Alors, quelle est la politique? Que pensez-vous de la politique africaine de Barack Obama? C'est le débat de demain.